Martial, t'as oublié ta bague? Non, je la mets là. Bonjour Sonra. Est-ce que vous avez remarqué des petits changements dans les lieux en arrivant ce matin? Alors, ce n'est pas le jeu des 7 différences, mais on n'est pas loin de ça. Il s'est passé plein de choses cette semaine. D'abord, lundi, une équipe est venue redécorer la salle et c'est vraiment sympa de voir cette déco spéciale Pâques qui est en place. Jeudi matin, avec Philippe Delbecq, on a rencontré notre maître d'œuvre qui s'occupe de notre maître d'ouvrage, que je me mélange, qui s'occupe des travaux. Et on a pu faire un point travaux à 7h30. Et puis, le vendredi, avec Jerry et Oreb, on a démonté les chapiteaux dans la cour, qui nous redonne un petit peu d'air et de place dans cette cour. Juste pour rappel, avant que vous oubliez et que vous effaciez ça de votre mémoire, voilà comment c'était avant. Et puis, il y a aussi une intervention, mais qui ne se voit pas du tout. Et pourtant, elle est vraiment sympa. Bah, c'est le ménage qui a été fait nickel. Et avant, l'arrivée de Famille Je T'aime, qui a occupé les locaux depuis vendredi soir jusqu'à hier soir. Tout ça pour dire qu'en plus du film qui a encore eu lieu hier soir, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Et nos locaux sont bien vivants, donc ça fait plaisir. Là où j'étais un petit peu déçu, c'est que j'espérais, en démontant les chapiteaux, trouver un trésor. Malheureusement, il n'y avait rien dessous, donc tant pis. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose, et je vous en parlerai tout à l'heure. Nous poursuivons notre série dans le livre des Hébreux. Et je vous propose ce matin de lire ensemble les versets du chapitre 3 et du chapitre 4. On va commencer au chapitre 3, verset 7. J'irai jusqu'au verset 14 et puis on poursuivra avec le chapitre 4. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Je vais directement au chapitre 4 et j'aimerais lire les versets 1 à 11. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps, après, par David, cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. J'ai appelé ce passage « Encourageons-nous à nous reposer ». Je vous propose d'aborder deux points ensemble, le besoin d'encouragement et le besoin de repos en deuxième point. Alors, en réalité, ce passage, c'est le deuxième avertissement solennel sur cinq passages de ce type dans le livre des Hébreux. Mais j'ai pensé que si j'appelais ça avertissement solennel, vous n'auriez peut-être pas envie de rester là plus longtemps. Donc, je préfère insister sur l'encouragement et sur le besoin de repos. Même si vous allez voir, il y a aussi de l'avertissement. Donc, je vous préviens juste en avance que c'est un passage qui est assez bouleversant et en même temps qui ne devrait pas nous laisser identiques à la fin de cette réflexion. Je vous propose de réfléchir sur ces deux besoins, le besoin d'encouragement et le besoin de repos, à trois questions. Pourquoi avons-nous besoin d'encouragement? De quel encouragement avons-nous besoin? Et comment s'encourager? Pourquoi avons-nous besoin de repos? De quel repos avons-nous besoin? Et comment se reposer? Pourquoi avons-nous besoin d'encouragement? Le contexte de ce passage, qui se trouve dans ce livre hébreu, s'adresse à des citadins qui sont chrétiens d'origine et de culture juive, mais qui sont confrontés à des difficultés extrêmes, notamment en termes de persécution, et qui sont tentés de tout laisser tomber pour revenir à leur culture d'origine. Et le but de l'auteur, c'est de convaincre ces Hébreux que ça vaut la peine de continuer dans le choix qu'ils ont fait de suivre Christ. On a vu dans les chapitres 1 et 2 que l'auteur leur rappelle que Jésus est supérieur aux anges. Dans le chapitre 3, au début du chapitre 3, on a vu que Jésus est supérieur à Moïse. Et dans ce passage, on va voir aussi que l'auteur insiste sur le fait que Jésus est supérieur à Josué. Et voilà que dans cette démonstration que l'auteur fait, il veut insister sur le fait que les Hébreux sont en train de traverser une forme de désert, à l'image de ce que le peuple juif, le peuple hébreu à l'époque, a traversé lorsqu'il est sorti d'Égypte. Le peuple était tenu esclave en Égypte, et avec la direction de Moïse, ils ont pu sortir d'Égypte, quitter l'esclavage que Pharaon leur imposait et marcher en direction de la terre promise. Ce que représente un désert, évidemment, on pense tout de suite au Sahara et au désert aride. Là, on est plutôt dans un désert qui se trouve dans la péninsule du Sinaï et qui est un désert où on peut vivre, mais on ne peut pas rester tout en même endroit. Il faut bouger parce que il n'y a pas assez d'air pour le bétail. On ne peut pas cultiver de champs, il ne pleut pas assez, et c'est obligatoire de se déplacer. Et ce désert, bien sûr, représente le fait que ce peuple, à peine sorti d'Égypte, à peine cette joie immense d'avoir été libéré de l'esclavage, s'est retrouvé confronté à une pression énorme, à savoir qu'ils se sont retrouvés dans ce désert avec pas assez de nourriture, avec pas assez d'eau. Et le peuple, assez rapidement, a commencé à se plaindre contre Moïse, contre Dieu, et s'est révolté contre Dieu et contre Moïse. Et ce désert a eu des conséquences terribles, parce qu'en fait, au lieu d'être simplement une traversée de l'Égypte jusqu'à la terre promise, ce désert est devenu carrément 40 ans d'errance et 40 ans de vie pour ce peuple hébreu. Ce désert, il représente bien sûr ce que nous vivons dans notre monde aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une forme de désert. La réalité est la suivante. C'est que nous pouvons chercher à trouver une vie épanouie et accomplie à travers la famille que nous avons, à travers nos succès professionnels, à travers nos amitiés, à travers nos passions. Mais en réalité, aucun de ces aspects ne peut pleinement satisfaire les besoins essentiels de notre vie. Et il y a en nous une forme de soif, une forme d'aspiration à un sens à notre vie qui soit au-delà même de tout ce qui peut sembler nous remplir dans un premier temps. Même si notre mariage fonctionne bien, même si notre vie professionnelle se développe, même si notre famille est adorable, eh bien, en réalité, nous savons tous que tout cela finit par revenir à la poussière et que notre vie a une fin et que toute belle chose a une fin. Oui, je vous l'ai dit, ce passage, ce n'est pas forcément très encourageant pour aujourd'hui, mais il rappelle une réalité qu'on ne peut pas non plus ignorer et pas mettre sous le tapis. La réalité plus encourageante, c'est que dans ce désert où le peuple se retrouve à errer pendant 40 ans, Dieu est présent. Mais sauf que Dieu ne fait pas les choses selon le plan que le peuple voudrait. Dieu permet que ce peuple manque d'eau. Dieu permet que ce peuple ait des problèmes de nourriture. Notamment, ce qu'il regrette énormément, c'est de ne plus avoir d'ail. Et l'ail, c'est quand même un ingrédient qui est assez intéressant. Alors, ça parle surtout aux personnes dont la culture culinaire est du Sud. Mais vous voyez ce que je veux dire si vous venez du Sud. Ce peuple finit par avoir de la peine à croire en Dieu parce qu'il ne fait pas ce que Dieu veut, parce que Dieu ne fait pas ce que le peuple veut et parce qu'il ne le voit plus rien faire. Et lorsqu'on relit ces passages de l'Exode où on voit ce peuple commencer à se révolter contre Dieu, on est à la fois pris entre un sentiment de « mais quels idiots » et en même temps « ah ouais, peut-être qu'ils n'avaient pas tort non plus, c'était quand même compliqué comme situation ». La réalité, c'est que ce peuple a commencé au départ par simplement se plaindre parce qu'il n'y avait pas d'ail. Et puis, petit à petit, ça s'est amplifié jusqu'à carrément demander à la peau de Moïse et à demander à ce qu'il soit remplacé. C'est-à-dire que cet endurcissement du cœur dont ce passage parle ne s'est pas fait du jour au lendemain, il s'est fait petit à petit. Et moi, ça me parle parce que par rapport aux difficultés que je peux rencontrer dans ma vie, aux problèmes que je peux rencontrer, aux situations de tristesse, eh bien, une manière de me protéger, c'est de développer une forme de cynisme. Le cynisme, c'est-à-dire de bloquer mes émotions et d'être ni froid ni chaud et d'aller simplement de l'avant. Et la réalité, c'est que ce cynisme ou cette forme d'amertume peut finir par tuer en moi tout ce qui est émotion et tout ce qui est empathie, et finalement qui participe aussi de la qualité de ma relation avec Dieu et de ma relation avec les autres. Pourquoi avons-nous besoin d'encouragement ? Parce que notre vie est quelque part une forme de traversée du désert. Mais de quel encouragement avons-nous besoin ? Verset 13, il dit bien, au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Encouragez-vous les uns les autres. Lorsque Jean raconte la mort de Lazare, qui était un ami de Jésus, on voit Jésus qui arrive vers les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Et les deux sœurs, qui ne sont pas en même temps face à Jésus, mais disent l'une après l'autre la même chose sans se concerter. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les deux disent la même chose. Les deux sont les sœurs de Lazare. Les deux sont tristes de la perte de leur frère. Mais à ces mêmes situations, à ces mêmes phrases, Jésus va répondre de deux manières différentes. À Marthe tout d'abord, il lui dit, Mais pourquoi pleures-tu? C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et il défie Marthe de mettre sa confiance en lui et de croire qu'il y a un espoir au-delà de la vie, au-delà de la mort, et que c'est Jésus qui est cet espoir. Et pourtant, à Marie, il ne dit pas ça. Il ne dit pas à Marie, qui vient vers lui, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il ne dit pas « Marie, je suis la résurrection et la vie. » Vous savez ce qu'il dit? Il ne dit rien. Jésus pleura. De quel encouragement ai-je besoin? Bien, parfois, j'ai besoin de quelqu'un qui simplement me secoue et me dise « Mais, oh, lève les yeux, crois-tu que Jésus est la résurrection et la vie ?» Et puis l'autre fois, ben, j'ai besoin de quelqu'un qui s'asseye à côté de moi et qui pleure avec moi. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui sont capables de répondre ce genre de réponse adaptée à tous les coups à ce que vous traversez? J'en connais pas beaucoup, et la réalité, c'est que ça nous mène à cette question de savoir, mais alors, comment s'encourager? Alors, pour répondre à cette question sur comment s'encourager, on a déjà la réponse à quand. Ce passage dit bien, chaque jour. Chaque jour, on peut s'encourager les uns les autres. La deuxième remarque, c'est que ce passage insiste sur le fait qu'il s'agit de quelque chose de collectif. Dans la mesure où pour s'encourager ou pour encourager quelqu'un ou pour être encouragé, il y a besoin d'être deux. Mais plus que cela, cet encouragement nous amène à lever les yeux vers celui qui est capable de parfaitement nous encourager. Celui qui sait exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Si c'est pour nous secouer en nous disant « Je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela ?» ou si c'est simplement pour s'asseoir à côté de nous et pleurer avec nous. Seul Jésus peut faire cela. Il est celui qui est le parfait encouragement. Et combien nous sommes ici encouragés à nous rappeler cela les uns aux autres, à savoir que Jésus est notre encourageur suprême. Même si ce mot n'existe pas en français, vous comprenez l'idée. Peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, Ce logo, ces objets ne vous parlent pas forcément. Pour les plus anciens, ça fait référence à un héros de cinq films des années 1980. C'était il y a pas longtemps. Indiana Jones, dans ce troisième film, Indiana Jones et la dernière croisade, est confronté... est à la recherche d'un trésor. Il veut trouver la coupe, le Graal, que Jésus a utilisé lors de la scène. Et puis, il y a toute une sorte de péripétie, je ne vais pas spoiler le film pour les plus jeunes, mais la réalité, c'est qu'il se retrouve dans une situation où il est avec son père, qui est blessé, qui va mourir, et la seule solution pour sauver son père, c'est d'aller trouver cette coupe et de faire boire le liquide qui est dedans à son père, parce qu'il y a un côté miraculeux de cette coupe, évidemment. Sauf qu'il doit traverser des épreuves pour arriver jusqu'à cette coupe. Et parmi ces épreuves, il se retrouve tout d'un coup devant un précipice, et il doit absolument franchir ce précipice pour aller de l'autre côté. Et cette épreuve s'appelle le saut de la foi. Et en réalité, on le voit tergiverser sur le fait qu'ils doivent sauter ou pas, jusqu'au moment où en fait il dit « j'ai pas le choix, il faut que je sauve mon père, donc j'y vais ». Et il avance son pied, et miracle, son pied tombe sur quelque chose de solide, qui est invisible, mais en fait il y a un pont qui traverse ce passage. Et je trouve cette image encourageante pour nous, de savoir que, alors que s'encourager les uns les autres peut paraître quelque chose de pas naturel, ou quelque chose qui parfois nous semble frustrant parce qu'on ne se sent pas encouragé, Et bien pourtant, nous avons aussi besoin de faire ce saut de la foi et de soi-même réaliser que pour encourager les autres, pour être encouragés nous-mêmes, nous avons besoin aussi d'encourager les autres. Et si nous attendons uniquement de la part des autres qu'ils viennent nous encourager, on sera toujours frustrés. Mais la réalité, c'est que en encourageant les autres, bien souvent, on est encouragé soi-même. Et là, j'ai plusieurs exemples en tête. Mais la réalité aussi, c'est que nous avons besoin des yeux de la foi et de ce saut de la foi pour comprendre et croire que celui qui est notre encourageur numéro un, ce mot n'est pas beau, mais notre encouragement numéro un, c'est Jésus-Christ lui-même. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il dit au verset 14 de ce chapitre 3. « En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. » Nous sommes devenus les compagnons de Christ. Quand Jésus dit « Encouragez-vous les uns les autres, parce que vous êtes frères et sœurs », parmi cette équipe, il y a Christ lui-même, dont nous avons aujourd'hui le privilège d'être aussi le compagnon. Et ça, ça fait du bien à entendre. Mais il se trouve qu'être encouragé, c'est bien, mais nous avons besoin de plus que ça. Nous avons aussi besoin de repos. Pourquoi avons-nous besoin de repos ? De quel repos avons-nous besoin et comment se reposer ? Alors tout d'abord, pourquoi avons-nous besoin de repos ? Le contexte de ce passage, y compris dans le chapitre 4, insiste sur le fait qu'il s'agit du peuple qui est dans le désert. C'est toujours la même chose. Le peuple est dans le désert et dans le désert, leur vie est stressante parce qu'ils passent leur temps en tant que nomades à déplier leurs tentes, à les replier, à bouger, à faire à manger, etc. Il faut gérer les enfants en même temps, il faut gérer tout le matériel à transporter, les grands-parents, etc. C'est fatigant. Et je pense à certains ici qui aiment bien faire du camping l'été et qui changent les idées, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Surtout quand il y a 1 million de personnes qui sont réunies ensemble. La vie moderne aussi est fatigante. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de pression, que ce soit de la pression quotidienne, mais que ce soit aussi de la pression en termes d'efforts qu'il faut faire lorsqu'on est étudiant pour réussir son bac, pour réussir ses études, pour réussir à ensuite évoluer dans sa carrière professionnelle, pour réussir à être sûr d'avoir une retraite confortable pour pouvoir être en sécurité, pour réussir à être en bonne santé, pour réussir à être de bons parents qui élèvent bien ses enfants, à tel point que la mode actuellement est à la surparentalité. Notre vie moderne ici, aujourd'hui, est aussi fatigante et nous vivons dans une forme de désert qui nous met sous pression. Et on peut se sentir fatigué. Et surtout, on peut se sentir comme dans l'incapacité d'arriver à se reposer des fois et à prendre du recul et à dire « j'ai besoin de souffler ». Comme la mère de John Wesley, qui était un grand prédicateur anglais du XVIIIe siècle, qui avait, si je ne me trompe pas, 15 enfants. Le matin, elle disait à ses enfants, « Maintenant, pendant un quart d'heure, je ne veux plus rien entendre. Je ne m'occupe plus de vous. » Elle prenait son torchon de cuisine, son tablier de cuisine. Elle le mettait sur sa tête pour faire une pièce à part et pendant un quart d'heure, elle lisait sa Bible et elle priait. Et elle priait pour ses enfants. Et c'était son moment de repos pour elle toute seule. Et puis ensuite, c'était vite effacé par le reste de la journée. De quel repos avons-nous besoin ? En fait, la particularité de ce passage, de ce chapitre 4, c'est qu'à chaque phrase, le mot repos est utilisé. J'ai compté au total, il y a une dizaine de fois le mot repos entre les chapitres 3 et le chapitre 4. Mais quasiment à chaque phrase, ce mot repos a un sens différent. C'est un mot qui a plusieurs sens, qui a plusieurs sens et c'est intéressant de se pencher sur ces sens. Et je vous propose de voir trois sens du mot repos ici. Le premier sens, verset 3. « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est le repos de la terre promise. Lorsque Moïse conduit le peuple hébreu hors du pays d'Égypte. Et il ne leur dit pas « on va aller dans le désert et on va rester 40 ans et vous allez en baver ». Il leur dit « on sort d'Égypte parce qu'on va aller vers la terre promise ». On va retourner là où Abraham habitait lors de la fondation du peuple hébreu. Mais ici, Dieu dit « j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Parce que le peuple s'est tellement rebellé et révolté contre lui, ils ont été privés de repos. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il insiste sur le fait qu'ils n'entreront pas dans ce repos vers la fin du verset 2 parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Comme Josué, qui lui a écouté, était prêt à aller de l'avant pour aller dans ce repos, ils n'étaient pas unis dans la foi avec lui et ça n'a pas marché. Il se trouve que ce repos que le peuple aspirait à trouver dans la terre promise, c'est ce repos à la fois social, de pouvoir enfin se poser et avoir une vie sociale normale, pouvoir être en relation avec ses voisins de manière posée et tranquille, et à la fois un repos physique, le fait de ne plus être tout le temps en train de courir partout. Et pour eux, c'était un espoir énorme, et d'ailleurs qui est rappelé dans les 10 commandements. Dans ce commandement qui dit, dans Deutéronome 5,15, « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. » Et il t'a racheté pour que tu observes le sabbat. Et ce sabbat, qui est une autre forme de parler du repos, en réalité, c'est une déclaration de liberté. Pourquoi le peuple est appelé à appliquer le sabbat dans l'ancienne alliance? Parce que c'est une déclaration de liberté. C'est ce jour-là où tu vas te rappeler que si tu es sorti d'Égypte et que tu arrives dans la terre promise, c'est parce que c'est Dieu qui t'a conduit là-bas. Et ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas par tes propres forces que tu y es allé, mais c'est grâce à ce que Dieu a fait. Et il m'est revenu en mémoire une situation personnelle. Lorsque j'ai préparé mes concours pour devenir enseignant, c'était une période très, très prenante, très stressante, avec énormément de choses à apprendre. Et c'est une période aussi en termes de vie d'église. La vie d'église était très prenante, et le dimanche, j'étais dans une église, on avait le culte le matin qui durait plus de 2 heures, et l'après-midi, on avait encore une étude biblique avec le repas ensemble à midi. Et bref, le dimanche, en fait, matériellement, ce n'était pas possible que je révise pour le concours. Et en fait, pour moi, c'était naturel parce que depuis que j'avais rencontré Jésus, j'avais décidé que le dimanche, c'était le jour qui lui était consacré. Et quand je discutais avec mes copains de promo, eux, ils travaillaient 7 jours sur 7 sans s'arrêter et ils étaient à fond tout le temps. Et en réalité, j'ai réussi aussi bien qu'eux. Et je ne veux pas dire cela pour me vanter en particulier ou pour dire qu'il faut faire comme ça absolument, mais c'est pour dire que c'était en fait, avec le recul, je le réalise maintenant, c'était en fait une manière de dire « oui, je prépare un concours, oui, j'ai besoin que ça rentre dans ma tête, oui, j'ai besoin de passer du temps pour réviser, mais qui c'est qui est le grand maître des concours et qui c'est qui est le maître aussi de ma vie? C'est Dieu lui-même. » Et c'était une manière de dire « je fais confiance à Dieu pour ce que je suis en train de vivre ». Et ça, c'était tellement puissant, et je pense que ça a largement contribué à ma réussite. Ce repos, c'est donc premièrement le repos de la terre promise. Mais il est aussi question du repos de Dieu lui-même, parce qu'il dit au verset... Quand Dieu, dans la maison, dit « n'entrons pas dans mon repos, pourtant son travail était terminé depuis la création du monde », verset 3, ça fait bien sûr référence à Genèse 2, lorsque Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il se reposait. Alors, Dieu peut-il être fatigué? Bien sûr que non. Dieu peut-il s'épuiser? Bien sûr que non. Dieu peut-il se lasser? Bien sûr que non. Le contexte de ce passage dit que Dieu était satisfait de ce qu'il avait fait. La création était extraordinaire et Dieu était content de son travail. Et cela nous parle du fait que le repos, C'est aussi une manière d'être satisfait de ce que Dieu nous donne, d'être dans le contentement vis-à-vis de ce que Dieu fait dans nos vies et le fait de pouvoir être satisfait de qui nous sommes en lui. Sauf que naturellement, nous ne fonctionnons pas comme ça. Et typiquement, bien souvent, on a pas mal de listes de choses à faire en tête, et que ce soit le dimanche ou pas, ces listes, elles continuent à trotter dans notre tête. Et c'est une chose de s'arrêter de travailler, ou de dire « je prends du recul et je me repose un jour dans la semaine », mais c'est une autre chose que de connaître une réelle paix intérieure, une réelle quiétude personnelle, et d'arriver à se débarrasser de tout ce qui peut nous stresser, et notamment de la culpabilité qui nous amène à toujours vouloir prouver ce que nous sommes, soit à nous-mêmes, soit aux autres, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir accepté, pour pouvoir se sentir accepté par nous-mêmes, par les autres, ou par Dieu lui-même, si nous sommes chrétiens. En réalité, nous sommes bien souvent esclaves des attentes que nous nous fixons dans notre vie et que nous cherchons à atteindre, et que lorsque nous voulons mettre de côté, elles nous sont rapidement rappelées. Il suffit qu'on arrive à avoir une petite victoire en termes d'éducation avec ses enfants, en se disant « ça y est, il a compris enfin ce que je lui ai répété 15 000 fois », pour que le lendemain soir, en cherchant l'enfant à l'école, la maîtresse nous dise que la journée se soit mal passée, et on se dit « il faut tout recommencer ». Et la réalité est que nous avons besoin de savoir comment nous reposer. Comment nous reposer ? Alors, la réponse ici, elle est très clairement proposée à travers la troisième forme de repos. Cette troisième forme de repos, on la voit lorsqu'il nous dit ici, « En effet, verset 2, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Et verset 3, « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est notre Sauveur et qui est là pour nous conduire dans le repos. Et le fait de croire en Christ est la solution pour pouvoir entrer dans le repos. Il se trouve que Josué a donné au peuple hébreu un repos physique. C'est lui qui a conduit le peuple hors du désert vers la terre de Canaan. Il leur a apporté un repos auquel ils aspiraient depuis 40 ans. Mais en réalité, on voit assez vite que ce peuple, une fois installé dans la terre de Canaan, dans la terre promise, n'est toujours pas en repos. Et il y a toujours des guerres qui continuent, il y a toujours des querelles qui se mettent en place, il y a toujours des rivalités, il y a toujours des problèmes, et ils ne sont pas dans le repos. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, c'est de connaître la bonne nouvelle, à savoir que nous avons besoin d'un Josué qui soit supérieur à Josué. Nous avons besoin d'un meneur qui nous emmène dans cette terre promise pour nous faire découvrir le vrai repos, celui qui apporte une vraie paix à notre cœur. Alors ce repos, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ou qu'il faut moins travailler, ou plus travailler, ou que le travail en soi est mal, hein, soyons bien d'accord, mais ce repos veut dire qu'au sein même de notre travail, au sein même de nos activités, alors même que nous n'avons pas d'enfants, ou que nous en avons 15, le repos existe et est disponible pour nous. Mais la solution, elle est où ? Elle est dans cette bonne nouvelle, à savoir que nous devons réaliser que pour connaître ce repos, nous avons besoin de renoncer à vouloir être à la hauteur de ce que Christ attend de nous. Nous avons besoin de renoncer à vouloir faire de bonnes œuvres, être de bonnes personnes, être de bons chrétiens, si nous sommes chrétiens, être de bons citoyens, être respectueux et honoré et accepté et admiré, etc., etc., etc. Nous avons besoin de réaliser que pour entrer dans ce repos, Il est impossible d'y arriver par nous-mêmes. Tout simplement parce que c'est ce passage que nous avons lu nous parle à la fois de celui qui peut nous apporter le plus grand encouragement, mais de celui aussi qui peut nous apporter le plus grand repos. Et vous savez pourquoi Christ peut faire cela ? Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Bah, tout simplement parce que lorsque Christ est allé à la croix, il a accepté d'être définitivement privé de tout encouragement. Lorsqu'il a exprimé le fait que « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a exprimé le fait qu'il était découragé. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu ? Rien. Il a accepté ce silence total, et ce découragement total, et cet abandon total, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, et pour que nous puissions être encouragés, et pour que nous puissions nous encourager les uns les autres. Et lorsque Christ est allé à la croix, et qu'il s'est trouvé au milieu de tous ceux qui se moquaient de lui, ces soldats qui lui crachaient dessus, qui lui mettaient une couronne d'épines sur la tête, qui se déchiraient sa tunique, qui l'humiliaient par sa nudité et par des coups, on peut bien penser qu'il n'était pas dans une situation de repos et que c'était plus que stressant à vivre. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté de connaître ce stress et cette angoisse de manière si intense et si forte ? Bah, tout simplement parce qu'il a accepté de connaître une situation d'inquiétude, d'angoisse, d'absence de repos, pour que nous puissions connaître le repos et pour que nous puissions réaliser que ce n'est pas par nos propres forces, par nos bonnes œuvres, par notre auto-justification que nous pouvons être côtoyer le repos. Mais c'est uniquement en regardant à ce que lui a fait à la croix et en le remerciant pour ce qu'il a fait à la croix. Aujourd'hui, je sais que Christ a été accepté, a été coupé de tout repos pour que je puisse trouver le repos. Je vous ai dit que lorsque j'ai fait le rangement des tentes cette semaine, j'avais été déçu de ne pas avoir trouvé de trésor. Mais en réalité, en allant à la cave, j'ai fait une découverte incroyable que je veux partager avec vous et qui dépasse même ce que Indiana Jones a pu faire. J'ai découvert la coupe. J'ai un petit problème, j'ai trouvé plusieurs coupes que lui cherchait partout, mais en réalité c'était caché dans la cave de l'église depuis longtemps. Alors, il se trouve qu'il y a dans le film une situation intéressante. Il y a plusieurs coupes qui sont présentées devant Indiana Jones, et le problème c'est qu'il ne sait pas laquelle est la bonne. Alors le méchant, bien sûr, arrive et voit la plus belle coupe, et il se dit c'est sûr que c'est la coupe qui a servi à Jésus. Il la prend, il boit la coupe et il se transforme en un tas de poussière. Et puis, Indiana Jones, finalement, trouve la coupe la moins reluisante et c'était la bonne coupe et il la fait boire à son père qui peut être guéri et qui est sauvé. Le film se finit bien. Je vous laisserai tester laquelle est la bonne coupe parmi les trois là. Il faudra un volontaire, s'il vous plaît. Je plaisante, bien sûr. La réalité, c'est que dans notre... Ouais, c'est précieux, exactement, c'est de l'argent. Je vois où tu veux en venir, Philomène, on en parlera après. Bien souvent, on a l'impression que pour trouver une solution dans notre vie, on a besoin un peu d'un ingrédient magique. On aimerait trouver cette coupe extraordinaire, dotée de pouvoirs surnaturels, et de pouvoir en boire un petit coup de temps en temps, un peu comme la potion magique dans nos Gaulois préférés, pour que notre vie aille mieux. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est que cette coupe, elle existe, on l'a, et c'est la parole de Dieu. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est Christ qui a donné sa vie pour nous. Et c'est ce que ce passage nous rappelle, c'est le Dieu vivant qui a mis en place ce plan extraordinaire pour que nous puissions être encouragés et pour que nous puissions nous reposer en lui. Et vous savez de quoi on parlera dans 15 jours ? Eh bien, on parlera de cette parole de Dieu qui est extraordinaire, qui est vivante et efficace pour tout révéler dans notre vie et pour nous permettre de connaître un nouveau démarrage. Amen.